Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Alexandre, infirmier militaire de carrière. Après un gros parcours technique dans les services des urgences et de la réanimation, il part en mission au Mali. Suite à des changements personnels et une constante envie d'évoluer et de faire évoluer le métier d'infirmier, il crée son entreprise Learning Experience dans le but de vulgariser le monde médical pour promouvoir la santé et prévenir les maladies. Bonjour Alexandre, merci de prendre du temps pour être présent ici sur le podcast. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé à infirmier militaire?
Déjà, merci Aurélie de m'avoir invité, bonjour. Je suis Alexandre Niguel. Alors oui, mon parcours, il est assez simple en vérité. J'ai un parcours scolaire classique avec un bac S. Et à la sortie du bac, comme beaucoup de jeunes, j'ai été un peu perdu. J'ai tourné en rond pendant longtemps. Et puis, j'ai un papa qui était déjà pilote de chasse dans l'armée. Donc, j'ai passé le concours, parce qu'il y en a deux, un de l'armée marine et un de l'armée de l'air pour être pilote de chasse, que j'ai brillamment échoué. Et après lesquels, j'ai une grosse remise en question quand même de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui reste ma vie. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait une grosse partie jeux vidéo dans mon quotidien qui exaspérait un peu mes parents. Et ils m'ont dit, au bout d'un moment, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je me suis inscrit sans aucune motivation en fac de bio, pendant laquelle j'ai pas été très brillant, je te le cache pas, ce qui m'a quand même permis de rencontrer ma femme, ce qui est pas anodin. Et puis il y avait beaucoup de gens en fac de bio qui faisaient ça en attendant d'avoir la réponse de leur concours infirmier, et puis au final je me suis dit bah infirmier pourquoi pas, et puis je me suis lancé, et puis bah finalement ça a pas mal marché, d'autant plus que je sortais des concours de pilote qui étaient assez ardus. Donc quand on a fait les tests psychotechniques de pilote, les tests psychotechniques d'infirmier derrière, c'était un peu plus simple. Donc j'ai eu la chance d'être bien classé là où j'ai passé mes concours. Et puis, du coup, je suis rentré, j'ai découvert le métier finalement sur le tard. Pour moi, ça n'a pas du tout été une vocation, mais j'ai adoré ce métier. Mais donc, j'ai fait mon école dans le civil et je me suis rentré dans l'armée après, avec mon diplôme civil en main, ce qui est un parcours un peu particulier comparé à d'autres infirmiers. Parce que pour la plupart des gens, il y a une école qui s'appelle l'EPPA, l'école personnel paramédicaux des armées, dans laquelle l'armée forme ses propres infirmiers. Donc il y a deux voies pour rentrer, et moi je suis rentré par la petite voie, entre guillemets.
Et du coup, c'est pourquoi ça t'a intéressé d'aller à l'armée plutôt que peut-être dans d'autres services que tu as pu voir en stage?
J'étais pour être complètement honnête, j'étais un jeune homme un peu perdu. Et je pense que le cadre que j'avais découvert pendant les concours, pendant tout ça, me plaisait bien, en vérité. Et j'avais envie de retrouver ce cadre. Et je pense que j'avais besoin de ce cadre pour me donner une deadline, une ligne directrice, parce que finalement, j'ai été autonome assez tard. Donc l'armée, ça m'a un peu apporté ça. Et puis, j'avais toujours eu ce fantasme un peu du militaire qui part en mission, qui voyage. Et donc, j'ai eu la chance de le faire. Donc, c'était super et j'ai énormément appris. L'armée, c'est une super école. On pourra en dire tout ce qu'on veut. Évidemment, rien n'est parfait, mais c'est une super école de la vie. Pour de vrai, on rencontre des gens de partout. On apprend qu'on a besoin de l'autre. On apprend la cohésion. On apprend. Et tout ça, c'est des valeurs qui font toujours aujourd'hui partie de moi. Je regrette pas du tout cette expérience, bien au contraire, on va voir, j'ai énormément appris, même si au final le quotidien était assez proche d'un infirmier militaire, parce que je travaillais dans un hôpital militaire en première affectation, notamment aux urgences. Donc en fait, mon quotidien, c'était à grosso modo celui d'un infirmier aux urgences dans un hôpital civil lambda.
Et le fait que tu aies d'abord été dans le civil et après à l'armée, est-ce que c'était pas plus difficile de rentrer à l'armée par rapport à ceux qui ont été déjà formés par...
Plus difficile, non, parce que en fait, c'est vraiment deux voies qui sont bien distinctes. Alors moi, on ne me l'avait pas expliqué comme ça, et puis si on l'avait expliqué comme ça, j'aurais sûrement fait différemment, mais parce qu'en fait, pour l'anecdote, j'ai passé les trois concours, hein, donc j'ai passé deux concours dans le civil plus le concours militaire, et le recruteur que j'avais rencontré m'avait dit « mais ça change rien du tout à ton parcours », probablement parce qu'il n'y connaissait rien. Et du coup, comme j'ai eu la réponse du premier récit civil qui était à côté de chez moi, je dis « bon, bah feu, je me lance là-dedans ». Et puis quand j'ai eu les réponses du concours militaire, je n'ai pas forcé, parce que je me suis dit « j'y retournerai après ». Première erreur, là où j'aurais pu être plus malin, pour te dire à quel point j'y allais vraiment la fleur au fusil. C'est que ce que je ne savais pas, c'est que quand tu fais l'école militaire, tu es payé, un détail, parce que tu rentres déjà dans l'armée et tu es formé par l'armée. Et puis du coup, les affectations à l'arrière, ensuite, sont pas les mêmes. Quand tu viens du civil, tu es forcément affecté, ou il y a de grandes chances que tu sois affecté dans un hôpital militaire. Alors que quand tu as fait ton école militaire, tu es plutôt en unité ou en régiment. Donc, c'est deux parcours et deux voies qui sont très différentes, même si après, rien n'empêche de passer de l'un à l'autre et de changer. Mais c'est un peu plus compliqué quand même.
Et donc, en tout cas, pour moi, personnellement, je trouve que c'est très flou de savoir ce qu'un infirmier militaire fait par rapport à un infirmier classique. Et tu nous as dit que tu travaillais un petit peu comme les infirmiers qui sont à l'hôpital public. Du coup, tu peux nous expliquer où t'es allé, ce que tu as fait.
Alors, il y a deux quotidiens bien distincts quand on est dans l'armée. Le premier, c'est celui du personnel qui travaille en hôpital militaire. Les hôpitaux militaires, c'est des hôpitaux et des structures de soins comme dans le civil, c'est les mêmes, avec une hiérarchie militaire, avec du personnel militaire et pas que, parce qu'il y a aussi du personnel civil qui travaille dedans, mais qui soigne des civils, ce qu'on appelle des hôpitaux d'instruction des armées. Instruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on forme les soignants à pouvoir aller derrière sur le terrain. Et pour former les soignants, eh ben, il faut du malade, du blessé. Moi, je travaillais à celui de Toulon, qui est un trauma center de niveau 1. Donc, on avait la chance de récupérer pour toute notre région tous les gros polytraumes, les choses comme ça. Mais c'est ce que font tous les trauma centers de niveau 1 de France, quoi. Donc, mon activité au quotidien, c'était la même que pour les autres infirmiers. À différence près que sur nos badges, on avait des grades, quoi. Mais c'est la seule différence. Hein. Nos collègues infirmiers, on leur parle pareil. Les médecins, on leur parlait de la même façon que dans le civil. Il n'y a pas de différence. Le deuxième quotidien, c'est celui d'infirmier en unité. Et là, ce n'est pas le même travail. C'est souvent les infirmiers qui passent en mission avec les compagnies de combat et les choses comme ça. Et eux, ils ont deux quotidiens. Un quotidien où ils font beaucoup de formation et d'aguerrissement à leur pratique. Et après, en termes de soins, par contre, c'est beaucoup moins, comment dire, pointu et technique, parce que la plupart des soins qui se font en unité, ça va être de la médecine du personnel, ça va être de la petite traumato pendant le sport du régiment, des choses comme ça. Ça ne peut pas être. Voilà. Donc, il y a deux voies bien distinctes, mais qui ont leur utilité, parce que. Autant on a besoin d'infirmiers sur le terrain au plus près des combattants pour pouvoir leur prodiguer les premiers soins et bien les connaître, et autant on a besoin peut-être de gens un peu plus techniques dans une chaîne de soins dans un deuxième temps pour faire du déchocage, de la chirurgie, de la réanimation. Donc tout le monde a sa place. Le service de santé a une chaîne de prise en charge des blessés qui fonctionne très bien et chacun a sa place dans cette petite chaîne. Il n'y a pas de hiérarchie, entre guillemets, entre les infirmiers.
Et tu dis qu'il y a différents grades. Du coup, toi, en tant qu'infirmier, tu peux passer des grades ou pas du tout?
Alors oui, bien sûr, tu peux passer des grades. C'est principalement l'ancienneté. Ça fait débat parce que quand tu rentres infirmier, tu rentres sergent-chef. Alors, je ne sais pas si tu es très au clair avec les grades, mais ça fait partie des grades de sous-officier pour un militaire, entre guillemets, standard qui rentre au bas de l'échelle pour devenir sergent-chef. C'est des années de travail, de concours, d'investissement, et nous on arrive déjà là, donc parfois ça fait un peu tiquer quand on arrive au régiment, mais après il faut bien comprendre que nous on a des grades de spécialiste en fait, hein. Je veux dire, moi j'ai toujours été très au clair avec ça, moi j'ai jamais été un combattant pour de vrai, hein. Moi j'ai été un spécialiste, je suis là pour prodiguer des soins et parfois du conseil quand il y a des choses, mais au-delà de ça, moi je suis là en support des militaires, en soutien des militaires, mais je suis militaire, entièrement, enfin, en tout cas j'ai été militaire entièrement, mais je prenais pas la place du soldat et de la hiérarchie plus classique. Le système de santé, c'est un peu comme les essences, quoi. On est une arme de soutien des autres armes, quoi. Donc je pense qu'il faut être assez lucide avec ça, assez clair. Il n'y a pas de combat, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie.
T'as travaillé où et t'es parti en mission?
Alors oui, moi j'ai commencé par travailler aux urgences de l'hôpital Sainte-Anne, qui était une super expérience parce que trauma center de niveau 1, quand on est un jeune homme, qu'on aime un peu l'adrénaline, qu'on a un gros déchocage, on fait des choses géniales. Et puis dans l'armée, on a été précurseurs sur des choses qui sont assez sympas et qui se font pas partout. Moi, j'ai pu voir des thoracos sauvetage, j'ai pu voir des choses de la réanimation et de la chirurgie dans le déchocage. Donc c'est vraiment des choses qui sont hyper sympas, hyper intéressantes. Pendant mes années aux urgences, je suis parti en mission pour l'opération Barkhane au Mali. Là, dans cette fameuse chaîne de secours, moi j'étais affecté à ce qu'on appelle le rôle 2. Le rôle 2, en fait, c'est le déchocage et la réanimation et le bloc opératoire du camp français. Donc le rôle 1, ce sont les infirmiers et les médecins qui partent auprès des troupes, et le rôle 2, c'est nous qui les recevons quand ça tape fort et qu'il y a besoin de soins plus intenses. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. On a travaillé malheureusement pour les Français, mais on travaille aussi pour la population. Tous les jours, on recevait la population pour lui faire des soins, les forces armées alliées, hein, notamment les Maliens qu'on a pu soigner aussi. Donc on fait vraiment du soin à grande échelle. C'est une expérience humaine très riche. Parce que c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais quand tu es infirmier au Mali, tu peux sauver des dizaines de vies tous les jours, parce que ils ont accès à rien au final. Hein, un antibiotique, ils peuvent pas y avoir accès, un bloc opératoire, une radio. Moi, j'ai vu des enfants marcher 15 jours sur une fracture ouverte pour venir faire la radio dans le camp français. Et donc, je dis souvent que j'ai appris le meilleur comme le pire de l'humain, parce qu'on voit des choses qui sont un peu surprenante, dirons-nous. Mais en tout cas, c'était une super expérience qui m'a énormément fait grandir. On peut en parler un peu plus en profondeur si tu as envie, mais vraiment, c'était une expérience très riche. Et au retour de ça, j'ai eu un peu de mal, du coup, de rester aux urgences. Typiquement, hein, voir les gens qui râlaient après 1 heure et demie d'attente pour avoir leur radio, quand moi, il y a 3 semaines, j'étais en train de soigner un petit Malien qui avait marché 15 jours sur la même fracture. Honnêtement, hein, ça me faisait perdre un peu ma patience. Donc, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de difficultés à être patient, à être empathique. Et du coup, j'avais envie d'approfondir un peu ma technique. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti en réanimation. Travailler 3 ans en réanimation, c'est pareil, où j'ai adoré apprendre de la physiopatho, parce que pour le coup, autant je dis souvent aux urgences, on sait faire beaucoup de choses, on est très généraliste sur beaucoup de choses. Mais on n'approfondit rien. Et là, pour le coup, en réa, j'ai approfondi tout. Puis c'était très rigolo parce que j'ai eu la chance d'être très bien accueilli par un service de réa, avec beaucoup de garçons que je connaissais déjà et de filles que je connaissais déjà, parce que quand on travaille aux urgences, la réa, c'est quand même la porte à côté. Et puis il y a eu un petit, comme on était plusieurs infirmiers des urgences à aller en réa, dans un court laps de temps, il y a eu une espèce de petite guéguerre un peu rigolote entre les infirmiers de réa et les infirmiers des urgences. Donc voilà, c'était très rigolo, super sympa, j'ai énormément appris. Mais après, en réa, il manquait quand même un contact humain avec le patient. Il manquait. Alors, je pense qu'il faut un temps pour tout, mais c'est aussi un service très particulier. Et je pense que la réa, où on est fait pour la réa, où on n'est pas fait pour ça. Et puis, typiquement, moi, je pense que j'avais un profil assez préhospitalier, parce qu'en parallèle de ça, j'étais infirmier chez les pompiers aussi. Donc, et je suis toujours d'ailleurs infirmier chez les pompiers. Donc, ça me permettait aussi de faire du préhospitalier. Donc, voilà, j'avais déjà un quotidien bien rempli. Puis pour anticiper ta question, je faisais déjà de la formation aussi, donc j'avais des grosses semaines, quoi.
Et pour revenir sur ton expérience là-bas au Mali, comment on choisit si tu es infirmier de grade 1 ou grade 2? C'est toi qui demandes ou c'est...
Alors ouais, c'est pas grade 1, c'est rôle 1 et rôle
Ouais.
2, c'est typique. En fait, c'est juste le lieu d'exercice dans lequel tu travailles. En fait, la chaîne de secours du service de santé, elle est séparée en 4 rôles. Le rôle 1, ça va être les infirmiers et les médecins qui sont le plus proches dans les convois, dans des choses comme ça. Le rôle 2, c'est les antennes médico-chirurgicales qui sont dans les camps français, les blocs opératoires, les réanimations, le déchocage. Moi, c'est là que j'étais affecté pendant ma mission. Il y a des rôles 3 qui sont des hôpitaux de campagne, là, pour le coup, des grosses structures des hôpitaux qu'on peut déployer. Et après, le rôle 4, c'est les hôpitaux justement en France. Quand on rapatrie les blessés, souvent du Mali, ils aient. Ou un arrêt sur Marseille, puis qu'on a l'hôpital à Marseille, ou principalement sur Paris, parce qu'on a des beaux hôpitaux parisiens qui marchent très bien et qui accueillent malheureusement pas mal de blessés. Donc c'est comme ça, et puis moi, du coup, on m'a affecté au rôle 2. Alors je dis, on m'a affecté au rôle 2, c'était ma mission, mais en fait, mon quotidien au rôle 2 était vraiment sympa. En fait, c'est des roulements de 4 jours. Le premier jour, on faisait le déchocage. Donc on était de garde au déchocage. Le deuxième jour, on était de garde en réanimation. Le troisième jour, on était de garde dans ce qu'on appelait nous en hospice. En fait, on faisait le post-op et le post-chir des patients du jour qu'on avait opérés. Et on opérait en vérité tous les jours, hein, principalement des locaux, mais on opérait tous les jours, donc il y avait toujours un suivi à faire. Et donc là, on faisait 2 x 12, puis 24, et après on avait une journée de repos. Ce qui allait très bien, parce que au final, quand on est au milieu du Mali, de toute façon, Tu vas pas manger avec tes amis, tu retrouves pas ta famille pour dîner, donc t'as pas tellement grand chose à faire travailler. Et puis moi j'ai eu énormément de chance. Alors déjà parce que j'ai eu des médecins qui m'ont fait confiance et j'ai pu partir finalement sur mes jours de repos. Je faisais de temps en temps des missions de rôle 1, donc j'avais un planning bien chargé, mais c'était hyper intéressant de pouvoir mutualiser les compétences. Et puis aussi on avait pas mal de sujets de formation sur mes jours de repos parce que j'ai eu la chance d'aller former les équipes de l'armée malienne. J'ai eu la chance d'aller former des équipes des forces spéciales. Donc c'était hyper intéressant et enrichissant. Et puis au final, quand on a envie et que tu veux faire des choses, il y a plein de choses à faire qui sont hyper, hyper enrichissantes.
Oui, puis comme tu dis, les médecins, ils devaient être plutôt agréablement surpris de voir que tu étais motivé et du coup, ils te laissent faire des choses, quoi. Ils te laissent facilement faire des choses.
Tu me demandais tout à l'heure la différence entre l'infirmier militaire et l'infirmier civil. Ça va aussi là-dedans, dans le sens où l'infirmier militaire est souvent très autonome. Et il peut partir. Moi, j'ai eu la chance de partir avec une compagnie, 160 bonhommes au milieu du désert. Je suis seul infirmier. Là, il faut pouvoir, entre guillemets, tout gérer, du petit bobo jusqu'au il a marché sur une mine. Comment on fait? On est tout seul. Donc, les médecins, ils ont une vraie vocation de formation envers leurs équipes. Et on parle souvent du glissement de compétences dans le civil. Malheureusement ou heureusement, je ne le sais pas, mais dans l'armée, c'est assez monnaie courante, hein. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des médecins qui m'ont appris à intuber, qui m'ont appris à poser des artères, qui m'ont appris à poser des voies centrales, qui m'ont appris à faire de la petite chirurgie. Bah, parce que quand le bloc avait une petite activité et que le chirurgien avait un peu de temps, et bah, il te prenait avec lui et il est allé au bloc, il t'allait apprendre à faire de la chirurgie. Moi, j'avais un chirurgien à qui je m'entendais très bien. Je me souviens une fois qu'il m'avait dit, il m'avait envoyé l'encyclopédie médico-chirurgicale avant. Il m'avait dit, voilà, je me suis posté l'intervention, mais demain au programme, il y a ça. Ce soir, tu révises, demain, tu viens avec moi, t'opères. Donc on a fait des choses qui sont super, super intéressantes. Clairement, c'est du dépassement de tâches, du dépassement de connaissances. Faut pas se leurrer, hein. Ça peut se faire là-bas parce que de toute façon, le Malien, il n'ira pas porter plainte contre l'armée française, hein. Il faut être lucide. Malgré tout, on a toujours essayé de prodiguer le meilleur tout le temps. Et fait est de constater que ça marche super bien. Qui est une raison aussi, une des raisons de mon départ, c'est que une fois qu'on a acquis beaucoup d'autonomie, qu'on a acquis, pardon, beaucoup d'autonomie, c'est difficile de faire marche arrière. Aujourd'hui, aller dans un service de, j'en sais rien, de pneumologie, appeler un docteur parce que j'ai un patient qui a 38,5 pour lui demander si tu peux lui mettre un Perfalgan et des Émocs, je pense que ça va être compliqué. Enfin, je pense que je vais mal le vivre, mais à même échelle, je pense que quand on a l'habitude de bosser aux urgences, où on est très autonome, où on prend plein d'initiatives, où on anticipe plein de choses, et que du jour au lendemain, on nous dit ben, stop, on arrête, c'est un peu dur, quoi.
Et une question, peut-être que sûrement t'as déjà posé plein de fois, mais le fait d'être allé là-bas et tout, t'as pas eu peur pour ta vie ou est-ce que parce qu'on est tellement à 100% dans son travail et tout, c'est quelque chose qu'on pense même pas?
Alors, si, si. Alors, je ne vais pas te mentir. J'ai peur pour ma vie. Alors, j'avais pas peur en partant, parce que j'avais envie de le faire. Et je pense même que j'avais plus, je pense que j'avais besoin de le faire. D'autant plus que je suis parti dans un contexte difficile. Non, je suis pas content dans un contexte difficile, mais personnellement, ça c'était pas bien organisé dans le calendrier. Un jour, je finis ma garde aux urgences. Il y a ma cadre qui vient me voir et qui dit, Alexandre, qu'est-ce que vous faites le mois prochain? Ou dans 2 mois, je sais plus, mais c'était assez court, c'était l'été. Bah, vous êtes prévu partir au Mali? Ah, ok, d'accord. Donc ça fait des drôles de discussions en rentrant le nombre. Et bonjour chérie, écoute, je viens d'apprendre que je partais au Mali le mois prochain ou dans 2 mois, je suis pas sûr. Donc ça fait des situations personnelles qui sont un peu particulières, un peu délicates, hein. Je me souviendrai toujours, je pense, du moment où j'ai dû prendre mon téléphone, appeler ma mère et lui dire, voilà, maman, je vais au Mali le mois prochain. Elle n'a pas sauté de joie, hein. C'était un enthousiasme très,
Ouais.
très mitigé. Et puis, du coup, je suis parti, rigolo, mais je suis parti le 15 septembre, le jour d'anniversaire de ma femme. Donc, c'était son cadeau d'anniversaire, c'était pas terrible, terrible. Et puis, surtout que la mission au départ était programmée pour 3 mois. Donc, le deal, c'était je rentre avant Noël. Je suis rentré le 10 ou le 11 février, quelque chose comme ça. Donc voilà. Oui, ma chérie, tu te souviens, je t'avais dit que je rentrerais avant Noël. Bon, finalement, je rentrerai avant le jour de l'an. Ah oui, ma chérie, finalement, le jour de l'an, tu le feras toute seule. J'essaye de rentrer avant Saint-Valentin. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une expérience que j'avais envie de vivre. Donc, en y allant, honnêtement, j'ai pas eu peur. Par contre, sur place, tu découvres un environnement en fait, que tu ne peux que fantasmer avant d'y aller. C'est très difficile de discuter de ces sujets-là avec des gens qui l'ont pas vécu parce que c'est difficilement entendable en vérité pour le commun des mortels et c'est tant mieux. C'est important, hein, c'est tant mieux, on n'est pas obligé de vivre des trucs pareils. Mais oui, la première fois qu'on entend les coups de feu, la première fois qu'on entend les explosions, d'autant plus qu'au Mali, quand j'y étais, ça a été très tendu, il y a eu des gros attentats. Avec des 500 victimes, il y a eu, nous, le camp français, on s'est fait attaquer plusieurs fois, donc ça a été, si, on a eu peur, mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de courage sans peur. L'homme qui n'a peur de rien est un idiot. L'homme qui fait malgré la peur est courageux. Donc non, on apprend aussi beaucoup sur nous, hein.
Ouais, et t'avais quand même contact du coup avec ta famille?
Oui, on avait des contacts réguliers avec nos proches. Hein. Bah, il y avait Internet, hein. Donc vraiment, on avait un WhatsApp et puis on arrivait à échanger. En plus, avec le Mali, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, donc c'est assez simple. Mais non, on arrivait très très bien à échanger. Le fait est, c'est que tu racontes pas en fait ce qui se passe au Mali. Alors, moi, quand j'avais ma femme au téléphone, une fois par semaine, je lui racontais la séance de sport avec les copains, l'apéro qu'on avait fait le soir et comment j'avais rencontré un mec sympa dans un coin. Je lui ai pas dit, bah, écoute, ce matin je suis parti en convoi, je me suis fait tirer dessus, on s'est fait tirer dessus, ou on est tombé dans un champ de mine, il a fallu déminer pendant 2 heures, ou voilà, on raconte pas ça.
Et ça, tu l'as raconté à ton retour?
À ma femme?
Ouais, ta famille, ouais.
Alors, ma femme veut pas savoir, en vérité.
D'accord.
Je pense qu'elle veut pas savoir, et puis ça me va, j'ai pas un besoin de lui raconter, d'autant plus que, entre guillemets, quand tu es au fermier déjà dans un polytrophe niveau 1, tu as déjà un quotidien qui est assez lourd comme ça. Alors, je sais pas comment toi tu fonctionnes avec tes proches, mais moi j'ai essayé vraiment de faire une barrière entre. Ma femme, elle est professeure des écoles, donc elle n'y connaît rien. À partir du moment où je commence à lui parler d'un peu de sang, d'un peu de barbac ou quoi, elle me dit, oh, c'est dégueu ton truc. Donc, mais par contre, elle a été hyper intelligente dans le sens où elle m'a toujours laissé rentrer. Je pense que ça se voyait sur ma tête quand ça allait pas, mais elle m'a jamais mis la pression. Et je pense que pour la mission, c'est pareil. Alors, à une échelle bien plus grande. Mais elle a été hyper intelligente dans le sens où elle m'a laissé revenir. Parce que malgré tout, moi j'ai une. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai une culpabilité de revenir de mission. Parce que comme je te disais, quand tu es infirmier au Mali, potentiellement tu sauves des petits Maliens tous les jours. Tu arrives à avoir un impact sur la société qui est énorme. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que tu en as. J'ai eu la chance de pas mal travailler avec les renseignements. Donc je partais dans les villages. Soigner les gens sur place et des fois c'est pas grand-chose, mais tu sais que un antibiotique, un pansement, un machin, bah, ça peut leur sauver la vie, hein. Donc tu as vraiment l'impression d'avoir un impact très fort auprès de la population avec tes frères d'armes, hein, les autres soldats avec qui tu travailles, c'est pareil. Tu as vraiment un sentiment de devoir envers eux, hein. Quand tu es infirmier dans l'armée, tu as une position qui est assez particulière parce que en fait tu es un peu protégé par les autres combattants, par les autres soldats, parce qu'ils savent que quoi qu'il se passe, c'est toi qui vas leur sauver les miches. Donc, tu as une posture un peu particulière, tu lis des liens de fraternité que tu peux difficilement lier ailleurs, notamment dans notre équipe de renseignement. Là, c'est des gens que j'ai pas revus depuis le Mali. Je suis sûr que si demain on se croise dans la rue, c'est comme si on s'était jamais quitté. C'est un peu ça le sentiment de frère d'armes. Donc, non, il n'y a pas eu le retour, était compliqué dans le sens où il a fallu passer ces barrières-là de culpabilité, de machin, et puis de se remettre aussi dans un quotidien. Quand je vais faire mes courses à Carrefour, potentiellement, on va pas se prendre un tir de mortier sur la tête, on va pas se prendre. Donc, il faut se retourner à un état de vigilance qui est un peu plus normal, c'est ça. Et puis se défaire de la culpabilité. Et puis une fois que ça s'est fait, ça. Mais il faut laisser, je pense, un petit mois, un petit 2 mois pour que les gens puissent revenir normalement. Ça, tout le monde le comprend pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir une femme intelligente.
Et au niveau de l'armée, le retour, il y a quelque chose qui est prévu ou
Alors c'est très variable. D'autres t'en parleraient mieux que moi. Moi j'ai eu le droit à ce qu'on appelle un sas de décompression. En fait, en rentrant de mission, on a eu 3 jours dans un très bel hôtel en Crète, qui nous a permis de se remettre en condition. Concrètement, c'était de remanger des choses acceptables, reprendre une douche chaude, retrouver un peu de confort et la vie quotidienne. J'étais le premier à dire, honnêtement, on s'en fiche de votre sas, laissez-nous rentrer tranquille à la maison, ce qu'on veut voir, c'est nos familles, nos machins. Et au final, tu te rends compte que reprendre une douche, recommencer à vivre, laisser un peu au coup de la pression. Pendant ces 3 jours, on avait fait un peu des séances de top, de relaxation, on avait la possibilité de parler avec des psychologues si on avait le besoin. Donc c'était quand même un petit pas sympa, Mais à mon sens, ça ne va pas assez loin. Et il faudrait les généraliser, parce que moi, j'y ai le droit, mais il y a plein de missions et de gens qui n'y ont pas le droit. Et notamment ceux qui en auraient le plus besoin. Je pense, j'ai très bon copain qui est dans les forces spéciales. Le sas de décompression, il n'en a jamais entendu parler. Pourtant, lui, il voit 200 fois ce que j'ai vu moi. C'est un vrai sujet hein, au sein des armées, ils en sont bien conscients. Il y a de plus en plus de psychiatres militaires, de projets militaires qui avancent. La santé mentale dans l'armée, ben, malgré le fait qu'ils soient en retard, ils sont précurseurs sur beaucoup de choses. C'est pour te dire qu'on est en retard dans le civil, par contre. Parce que là, je parle de l'armée, mais moi qui suis pompier aussi, j'ai des collègues pompiers à qui ça ferait pas de mal de discuter de temps en temps quand ils reviennent de certaines inter. Il y a un début de choses qui se passe, il faut en profiter, mais c'est clairement à développer.
Et c'est vrai qu'on n'a pas discuté de ton quotidien là-bas sur place. Tu parles voilà, de la douche chaude, de manger quelque chose de classique pour nous.
Alors moi j'ai eu la chance, ils ont installé des algécos pendant mon mandat, mais le début de mon mandat c'était tente, et on vivait en tente, alors des grandes tentes, mais on vivait en tente quand même. Puis ils ont installé la clim, ce qui est pas mal quand on est au Mali et qu'il fait 50 degrés. Donc en vérité en termes de confort on n'était pas si mal, parce qu'on commençait à être dans des structures en dur avec la clim. Le repas pour l'armée c'est un truc qui est important, de toute façon, pour le moral, bien manger c'est important, quoi qu'il en soit. Chez toutes les femmes, toutes mes collègues infirmières, on s'est rendu compte quand tu as une petite baisse de morale, tu commandes un petit truc le soir pour la garde de nuit, tu amènes une petite boîte de bonbons, tout de suite tu sens que ça va mieux. À l'armée, c'est le même principe. Du coup, ils accordent une vraie importance sur ça. Donc, mine de rien, on avait des cuistots militaires, mais du coup, des cuistots militaires qui font pour le camp, mais de la cuisine pour 2500 personnes. Hein, donc, tu peux pas faire de la gastro. Mais malgré tout, très honnêtement, ça a jamais été. Enfin, ça a toujours été assez qualitatif. Et après, quand on est sur le terrain, on mange la fameuse ration de combat. Et on a la chance en France d'avoir une des meilleures, voire si ce n'est la meilleure ration de combat du monde, que le monde entier s'arrache. Parce que du coup, elle est très complète et elle est bonne. Mais c'est vrai que des rations de combat, il y en a 10. Et quand tu as fait le tour de toutes les rations, bon, les lasagnes au bœuf, elles sont très bonnes. Mais quand tu les as mangées 10 fois dans le mois, tu te dis, bon, au bout d'un moment, passe-moi pour autre chose. Mais après, on est arrivé à avoir des bananes. Enfin, des fruits, on mangeait beaucoup de fruits, on arrivait à avoir des choses quand même de qualité. Je te cache pas que des fois, on s'arrangeait un peu avec les locaux aussi pour récupérer de quoi pimenter un peu le quotidien. Mais franchement, non, l'alimentation, c'était quand même plutôt bien fait.
On va parler maintenant plutôt de ton nouveau boulot. Tu as parlé voilà, de pas mal de formations quand tu étais en mission et après. Du coup, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que tu as créé Learning Experience. Est-ce que du coup, bah, tu peux nous expliquer comment tu as fait la bascule là et...
Bah ouais, alors avec grand plaisir. Ça n'a pas été une bascule facile. Quand j'étais en réa, je suis tombé sur une super équipe, je te disais, une cadre, et vraiment, je me suis éclaté en réa. Mais je suis arrivé à un moment où j'avais eu l'impression d'avoir fait un peu le tour, quoi, de tourner en rond au bout de 3 ans. Je dis pas qu'il faut 3 ans pour maîtriser 100% de la réa, loin de là. Mais disons que le reste. Disons que j'avais plus envie d'aller chercher ce qui me restait. Hein. Parce que, en plus, on avait une grosse réa, on faisait de la neuro-réa, on faisait de la dialyse, on faisait plein de choses, donc c'était vraiment hyper intéressant. Mais au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus. Qui plus est, j'ai eu mon premier enfant, ce qui a un peu changé mon quotidien. Et puis, ma reprise après mon congé paternité, qui était encore de 3 jours à l'époque, a été difficile tout de suite parce que, bienveillance institutionnelle, tu rattaques de nuit. En 12 heures, donc grande et petite semaine de nuit. Donc en fait, je rentrais à la maison pour dormir la journée quand petit était réveillé. Donc autant te dire que je dormais pas beaucoup et puis j'ai rattaqué le soir pour travailler. Donc j'ai été très fatigué pendant longtemps jusqu'au jour où je me suis endormi en fait en réa. Ça devait être 2, 3 mois après où vraiment je luttais, je me battais tous les jours pour me lever pour aller travailler. Mais bah, tu sais, soignant plus mal chaussé, enfin le cordonnier plus mal chaussé. Bah, c'est un petit coup de fatigue, ça va passer. Allez, lève-toi, allez, vas-y, allez. Et juste au moment où un jour, je devais changer des poches de réa, de dialyse en réa, pardon. Et comme l'alarme sonnait dans 2 minutes, et ben je me suis dit, je m'assois 2 minutes dans la chambre avec le patient. Comme ça, j'attends 2 minutes. Quand l'alarme sonne, je change mes poches. Et après, je vais pouvoir manger direct. Donc, ça veut dire qu'il était midi 10, quoi, quelque chose comme ça, avant que j'aille manger. Sauf que c'est l'alarme qui m'a réveillé de la dialyse. Et là, j'ai commencé à dire, oula. T'as pas 30 ans, tu t'endors au boulot, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allé voir enfin mon médecin traitant, et en fait, bon, je te passe les détails, mais J'ai fait une mononucléose, un cytomégalovirus et une hypothyroïdie d'Hashimoto tout en même temps. Voilà.
Ah bah comme ça au moins c'était
Comme ça, je suis passé du statut de j'ai jamais été malade à bah, bim, bah, finalement tu vas t'arrêter 2 mois.
en effet.
Et puis du coup, bah, en fait, j'avais des bonnes raisons d'être fatigué pour le coup. Mais du coup, ça m'a remis en question. J'ai une longue période. Puis comme je disais, donc je bossais déjà mes 45 heures semaine en réa. J'étais infirmier pompier, donc je prenais quelques gardes de temps en temps en plus, notamment sur mes petites semaines. Donc j'en prenais au moins 2 par mois. Plus j'avais déjà des missions de formation à l'extérieur, et donc je commençais à me dire, bah, voilà, là, je travaille 70 heures par semaine en fait. Mon salaire, c'est 2100 euros. Je travaille les nuits, les week-ends, les jours fériés. Je coupe la moitié de ma vie à la maison. Comment je peux faire pour améliorer mon quotidien? C'est dans une période un peu difficile, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements aussi pour l'armée. Et du coup, on m'a proposé plein de choses dans l'armée. Mais au final, on me proposait que des choses qui, ou n'étaient plus en raccord avec ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire qu'on m'a proposé d'aller dans des antennes médicaux, enfin, antennes chirurgicales parachutistes, pardon. Donc c'est des antennes qui partent beaucoup en mission, des choses comme ça. Mais ma femme, elle m'avait gentiment fait comprendre que bah, maintenant qu'on avait des enfants, si je pouvais arrêter de partir, c'est quand même mieux. Derrière, on aurait pu faire IAD, mais je me sentais un peu trop jeune pour m'enfermer dans un bloc, entre guillemets. Rester infirmier classique de réa ou aux urgences, parce que je ne voyais pas dans d'autres services dans lesquels je pouvais m'épanouir, bah, je sentais que j'arrivais à mes limites. Et donc du coup, bah, comme j'arrivais en fin de contrat de l'armée, bah, j'ai dit je fais la bascule, retourner travailler dans le civil. Pourquoi faire du coup? Et comme je faisais déjà beaucoup de formations dans l'armée, que j'avais quelques contacts à côté et tout ça, et j'avais décidé de me lancer comme formateur indépendant. Covid arrivant, difficile de faire de la formation. Alors la réa a trouvé, enfin j'ai eu un petit appel en disant ben, finalement il y a le Covid, on a besoin de personnel en réa, est-ce que tu veux pas rester un peu plus? Bon, ben, d'accord, je vais rester un peu plus. J'ai fait quelques mois de rab, et puis après ben, ça a été le chemin de croix hein, pour monter, enfin pour ne serait-ce que d'avoir les statuts, les déclarations de formation, les choses comme ça, parce que l'administratif pendant le Covid, ça a été bah, tout arrêté. Hein. Donc c'était très compliqué. Donc j'ai dû faire 2-3 missions à gauche à droite pour manger, parce que ça c'est pareil, mais quand tu quittes l'armée en fin de contrat, t'es pas une rupture conventionnelle, c'est rien. Et donc du coup, pour Pôle emploi, en final, t'as le droit à rien et tout. Et plus est que dans l'armée, t'es payé sur beaucoup de primes. Donc le salaire de base est ridicule, donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec des revenus qui avaient divisé par au moins 2, si ce n'est plus. Donc il a fallu, bah, moi, que je continue de faire manger mon fils et ma femme, hein, donc il a fallu rebondir. Et comme le présentiel, c'était plus possible, et ben je me suis formé au Canada en distanciel à justement créer de la formation à distance. Et ça m'a permis de créer des contenus de formation en ligne que je louais aux autres organismes. Et eux me rétribuaient sur les ventes de ces formations-là. Ça a duré un temps. Le problème, c'est que travailler avec ces organismes-là, eh ben, je me suis rendu compte que pour la plupart, on n'avait pas les mêmes visions de la formation. Clairement, je dis souvent ça en rigolant, mais quand on monte un organisme de formation en santé, qu'on a fait HEC, tout ce qu'on veut voir, c'est des chiffres qui rentrent. Moi, j'y suis allé avec une vraie vision de comment on passe un message, comment on transmet un message, comment être sûr d'avoir un vrai impact après la formation. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en termes de valeurs, on n'était pas tout à fait aligné avec les gens avec qui je travaillais. Donc j'ai essayé de créer mon organisme. Tu vois, ça fait en presque un an, mais c'est comme ça que moi j'ai décidé de créer Learning Experience. Avec des débuts pas simples comme toute entreprise, mais aujourd'hui, et ben, du coup, je pars des besoins, des problèmes, et je les aide à transmettre des messages. Et ça, c'est important. C'est quelle est la meilleure façon de transmettre vos messages, parce qu'à mon sens, c'est un peu ça la pédagogie. C'est comment j'émets le message, quel trajet il fait et comment il est reçu. Souvent, les gens ils viennent me chercher pour des problèmes de formation. En vérité, leur problème, c'est souvent pas des problèmes de formation, souvent c'est des problèmes de communication, de management, de gestion, de RH. Et donc aujourd'hui, on est une petite équipe et donc on continue de faire de la formation, hein, parce qu'aujourd'hui, le gros de notre chiffre d'affaires, c'est de la formation. Mais aussi, on fait un peu de coaching, d'accompagnement, un peu de communication, un peu d'événementiel. Et on essaye d'avoir un réseau qui est assez large, qui permet de vraiment de répondre aux besoins des entreprises et des institutions de santé, plutôt que de vendre que de la formation, parce que nous, on a dit, il faut vendre de la formation, donc on vend de la formation. On essaie d'être un peu plus intelligent que ça.
Et donc en termes de formation, tu proposes...
Alors, un peu de tout. J'ai de la formation sous tous les formats, du présentiel, du hybride, du en ligne. On fait de la formation pour les professionnels de santé, de la formation continue, hein. Si demain tu veux te former sur plaies cicatrisation, tu peux te former chez moi. Si demain tu veux recycler ton AFGSU, tu peux la recycler chez moi. Et à côté de ça, on fait de la formation qui vont jusqu'à du management, Là, en ce moment, on accompagne une DRH dans la création de son plan de formation. On accompagne un établissement pour la création d'événementiel, parce qu'ils ont eu des soucis avec leur cadre, et du coup, ils veulent recréer du lien avec le cadre. Donc, comment on crée du lien entre une direction et ses cadres. On espère créer de l'accompagnement pour un directeur des affaires médicales. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets. Et puis à côté de ça, on essaye de créer beaucoup de contenu pour vulgariser la santé, pour que la santé soit le plus accessible possible. Et donc on crée sur Internet des vidéos de motion design pour expliquer ben, qu'est-ce que c'est le cœur, justement la réanimation, qu'est-ce qui se passe en réanimation, pourquoi c'est compliqué de voir le patient. Demain j'ai un diabète, c'est quoi le diabète? Voilà. On essaye de faire passer le maximum de messages et de vulgariser au maximum la santé pour les professionnels et pour le grand public. Mais il y a du travail par-dessus la tête.
Que j'allais te demander, et du coup, c'est toi qui crée les formations.
Alors, oui et non. Aujourd'hui, au début, effectivement, c'est moi qui crée tout. Aujourd'hui, on est un petit groupe. Alors, j'ai pas de salariés, mais j'ai un petit groupe de formateurs avec qui je travaille en prestation autour de moi et qui me permet de pouvoir répondre à différents contenus, à créer. Et c'est souvent eux qui créent maintenant les formations pour moi. Moi, je les aide sur tout ce qui va être comment on amène le discours, comment on rend les choses engageantes, comment on fait en sorte que ce soit bien retenu, parce que j'ai une passion pour les neurosciences, donc je m'intéresse vachement à tous ces sujets-là et comment on peut faire pour avoir un maximum d'impact, parce que c'est ça. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Learning Experience, hein, c'est parce que je suis intimement convaincu que l'expérience, ça fait partie intégrante de l'apprentissage, donc il faut faire vivre des expériences aux gens pour qu'ils retiennent. Donc comment on crée ces expériences, comment on les fait retenir. Donc ça, c'est hyper intéressant comme sujet.
C'est n'importe qui peut te contacter, des établissements privés comme publics, des...
Tout à fait. Aujourd'hui, mes clients, ça va de l'infirmier libéral ou du dentiste libéral seul dans son coin jusqu'à des GHT. Donc on a vraiment toute la panoplie du soin et c'est aussi une de nos forces. C'est que du coup, on sait ce qui se passe à toutes les échelles et c'est hyper intéressant. Et puis, on a aussi en portefeuille des entreprises de la santé qui se montent, qui nous prennent pour du coaching ou du conseil. On a bientôt une start-up même, j'aimerais bien. Vraiment, on a un beau panel de participants de la santé. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire de la santé à toutes les échelles, c'est possible, quoi.
Toi, tu l'as créé après le Covid, mais j'ai interviewé déjà la saison dernière quelqu'un qui fait aussi de la formation et qui me disait que pour pouvoir décharger les équipes et pour partir en formation, c'était compliqué.
C'est tout à fait vrai, parce que bah, sinon, je t'apprends rien, hein. Il y a un énorme turnover dans les équipes. Il y a une grosse baisse de compétences. Je ne connais pas un planning dans tous les hôpitaux où je vais, où il manque pas des gens, où il manque pas des lignes. Donc, c'est un vrai problème de former les gens. C'est pour ça que c'est important d'y aller avec cette étude des besoins dont je te parlais. Parce qu'en fait, oui, la formation, ça peut être une réponse, mais ce n'est pas forcément la seule. Et des problèmes, il y en a une multitude. J'ai un bon exemple sur ça. On a un client qui est un IFSI et qui a sur le fameux raisonnement clinique, hein, qui a du mal à trouver des cours pertinents et sympas sur le raisonnement clinique. Et donc son problème, c'est enseigner le raisonnement clinique. J'aurais pu lui dire, je vais faire une formation sur le raisonnement clinique. Est-ce que c'est la meilleure façon? Nous, on n'a pas pensé que c'était le cas. Donc, on est en train de créer un jeu de société sur le raisonnement clinique pour pouvoir les faire jouer. Pour que le raisonnement clinique, plutôt que ce soit un truc abstrait, soit un truc concret. C'est-à-dire, comment on fait des liens en vérité, comment... Et donc, voilà, encore une fois, on vient nous chercher pour de la formation et on ressort avec un jeu de société. Je pense qu'on aura plus d'impact avec ce jeu qu'on n'en aura jamais avec n'importe quelle formation. Qui plus est, ce jeu, il peut être diffusé dans tous les IFSI, les IFAS, les IFAP de France. Que moi, aller dans chaque IFSI, chaque IFAP pour faire de la formation sur le raisonnement clinique, ça n'aura pas le même impact.
Les soins techniques, parce que de ce que j'ai compris par rapport à ton parcours, c'était vraiment un truc qui te bottait et que tu faisais régulièrement. Ça ne te manque pas, ce côté-là?
Alors, je l'ai toujours un peu avec les pompiers. C'est une moindre mesure parce que, je ne vais pas te mentir, des gardes de pompiers, j'en fais de moins en moins parce que je suis très pris par l'entreprise et parce que c'est idiot, mais financièrement, aujourd'hui, pour mes 12 heures chez pompiers, je vais prendre 100 balles. Quand aujourd'hui, je fais une journée de formation, je peux prendre 500 à 1000 balles. Quoi. Donc, économiquement, il y a un intérêt à ce que je sois dans la boîte plutôt que ce que je sois chez les pompiers. Donc, j'en fais de moins en moins. Après, en vérité, ça ne me manque pas tant que ça. Je pense que j'ai bien tourné la page. Les gros des chocs me manquent. Le gros polytrome, le motard chiffon, le règlement de compte qui a pris une balle ou machin, ça me manque un petit peu. Mais après, je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie et je pense qu'il faut accepter de tourner la page et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que moi, j'encourage toujours les soignants à créer d'autres projets, à aller voir ailleurs. Parce que il y a beaucoup de soignants qui sont fatigués du soin. mais on peut faire du soin ailleurs qu'à l'hôpital. Il n'y a pas que dans les institutions qu'on peut faire du soin. Il y a plein de façons différentes de faire du soin, et ne serait-ce que de prendre soin de ses proches, c'est déjà faire du soin. Donc parfois, on peut retrouver ce soin pas forcément là où on le pense, et les soignants ont des compétences qui sont très recherchées partout. Donc moi, je dis souvent aux gens, faites-vous confiance, allez voir ailleurs comment ça se passe. De toute façon, vous avez un diplôme d'infirmier, d'aide-soignant, de médecin. Je veux dire, si demain ça vous plaît pas, vous pouvez taper à n'importe quelle porte, ça s'ouvrira. Donc si vous avez des projets annexes, allez-y, lancez-vous, faites-les. Et moi, c'est typiquement le genre de personne que j'aime accompagner, que ce soit pour aller travailler dans une boîte dans le privé, pour montrer leur boîte, pour monter des projets. Donc non, il faut que les soignants se fassent confiance. Ils ont plein de qualités et de valeurs qui sont recherchées partout. Et il n'y a pas qu'à l'hôpital qui sont utiles.
Souvent la question à la fin, un mot de fin ou voilà. Bon, est-ce que tu viens de dire à l'instant, c'était déjà pas mal, mais si tu as peut-être voilà un conseil.
Un conseil, non, ouais, je pense que, en fait, je pense que je l'ai déjà dit, c'est rester éveillé et continuer d'apprendre. Je pense que c'est ça la clé. C'est difficile parfois, comme dans des structures, de changer de service, de bouger. Moi, c'est ce que je disais, je me moque souvent, je les appelle les vieilles rombières, mais on a vu ces infirmières qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans dans le même service. Et ben, en fait, c'est moche, mais comme elles n'ont pas changé, elles n'ont pas bougé assez vite, elles sont devenues inaptes à faire autre chose. Parce qu'elles n'ont plus la confiance en elles, parce qu'elles n'ont plus la volonté, parce qu'elles n'ont plus le envie de sortir de leur zone de confort et ça. Et ça, je trouve ça un peu triste. Donc, n'hésitez pas, on a de la chance d'avoir des métiers du soin où on peut exercer de 50 façons différentes. On peut toujours exercer d'une autre façon et continuer d'apprendre. Enrichissons-nous tous mutuellement. Aujourd'hui, on est infirmier, on peut travailler à l'hôpital, en clinique, dans un EHPAD, dans une entreprise, infirmière scolaire, chez les pompiers. On peut exercer dans tellement d'endroits différents. Donc, allons voir comment ça se passe ailleurs. Essayons d'apporter notre petite graine pour améliorer le quotidien, partout où on passe. Et si on fait tout ça, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à redresser ce système de santé, parce que entre nous, j'en ai un peu marre de ce truc un peu morose de oh, j'en ai marre d'aller au boulot, oh, j'en ai marre, oh, c'est triste. Alors, c'est un peu faux cul de dire ça de ma part, parce que moi, je suis parti. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on se mette dans ce sens de oui, on fait un des plus beaux métiers du monde. Oui, c'est très dur. Évidemment que c'est pas rose tous les jours. Allons-y avec la banane quand même, quoi. N'y allons pas, reculons, c'est chiant.
Merci Alexandre pour ton témoignage. Merci. C'était hyper intéressant pour et le côté militaire, mais aussi pour voilà, le côté les petits mots voilà, de fin.
Et ben, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir tendu le micro et m'avoir donné la parole. Et puis à très bientôt.
Oui, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!